rappelle un instant. J'oublie ma peine. À chacun de mes pas, moi je compte les heures. On se retrouvera dans la joie et sans peine. Je poserai mes pas dans un monde où les gens me répondent. J'entends le chant des colons. À chacun de mes pas, je sais. À chacun de mes pas. À chacun de mes pas, j'essaie. À chacun de mes pas. Parfois dedans ça devient si sombre. Je prends sur moi, je sens que ça gronde. Comment rêver sans trop d'espoir? Comment grandir sans même savoir? J'étais sûr qu'il suffisait d'y croire. Qui m'emmène insouciante, je me rappelle un instant, j'oublie ma peine. À chacun de mes pas, moi je compte les heures. On se retrouvera dans la joie et sans peine. Je poserai mes pas dans un monde où les gens me répondent. J'entends le chant des colons. À chacun de mes pas.
Radio Fribourg, on a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Alliance Ethnique, nos limites, pas de limites au délire non plus de Heidi. N'oubliez pas que vous retrouvez en direct la plus parisienne de toutes les Suissesses, Chérie ou Etania, tous les vendredis entre 16h et 19h. Morceau choisi.
Bonsoir. Attendez, je vais fermer la porte. Hein. Quand même, ça parle suisse-allemand assez fort.
Allez, tante, il fait un bouquin, là. Oh, c'est incroyable.
C'est suisse-allemand, hein. Je vous dis, mais c'est quelque chose.
Ouais, bon, c'est Marco Dietrich. Il est très, très bien, ce garçon.
Il est très bien, ouais. Bon,
peut-être que ça fait du bruit, les Suisses-allemands, mais ça, c'est bien jouer au foot. Ça tape dur dans des ballons.
C'est vrai.
Ah ouais.
Ouais, on sait de quoi on parle.
Bah
ouais.
Ah, qu'est-ce qu'il y a, Marco? elle disait que des choses gentilles. Hein.
Oui, en plus, je le pardonnais parce que c'était Marco.
C'est vrai. Heidi, tout va bien?
Bah, ça va.
Ouais.
Voilà. On est vendredi. Vous êtes contente?
Je suis là. Ouais. Tranquille, je suis là pour dire un truc. Hein.
Oui, ah ouais. Dame.
Ça vous dit?
Ouais, on veut bien, on vous écoute.
Bon, en même temps, j'ai pas trop le choix. Hein.
Vous êtes là pour ça?
Bah ouais, faut gagner sa croûte. Hein. Si. C'est donc ça, hein. C'est parce que mes enfants ont faim en fait que vous êtes obligés de m'écouter.
Ben si voilà.
Je comprends bien.
Pour nourrir les enfants de Cécile.
Ouais. Ils ont la bouche ouverte, vous ne pas contre
leurs petits oisillons.
Ouais, ça. Exactement, il faut chip chip tous les soirs. Ils attendent avec impatience que j'ai fini ma petite chronique et puis après ils sont contents, j'ai les petits sous. Voilà. Bon, le raccourci il était vite fait. Hein.
Un petit peu, ouais.
Ça m'arrange plutôt bien, moi, ce genre de raccourci. Mais bon, c'est pas évident hein, de pondre un truc le vendredi. Hein. Moi, je vous le jure, si vous saviez l'ambiance qu'il y a dans la radio le vendredi, c'est lunaire. Limite, hein. Limite la folie totale. Hein. C'est là que je me rends bien compte, en fait, qu'il y a une différence entre les Fribourgeois et les Parisiens au boulot.
Ah bon?
Ah oui, parce
c'est
que...
C'est quoi la différence?
Bah, je vois ici, dans notre radio fribourgeoise, l'ambiance, elle se dégrade plutôt le vendredi. Alors qu'à Paris, l'ambiance, elle se dégrade dès le lundi matin.
Ah. La dégradation est rapide, alors.
Et pourquoi? Ben, je vous le demande, parce qu'à Fribourg, en fait, c'est plus dur de sortir le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Alors, il reste plus que le jeudi, le vendredi et le samedi ici. J'ai rien compris.
Moi non plus, alors.
Vous comprenez pas?
Non.
À Paris, on peut sortir nuit et jour, n'importe quand, 7 jours sur 7. Ici, ben, on peut éventuellement sortir le jeudi, le vendredi et le samedi. Alors ouais, la fête, elle commence que le vendredi. Voilà.
Ah, ça dépend, mais vous l'ambiance... êtes à Gratavache, vous, c'est différent.
Mais pas du tout, je suis partout. Alors forcément, ça part en sucette que le vendredi. Moi, je dis, il faut savoir répartir son énergie. Oui, sur toute la semaine, sinon c'est compliqué. Moi, je vous dis, n'ayez pas honte de prendre quelques exemples sur nos spécialités un petit peu parisiennes comme ça. Oui, il faut pas. Il faut mélanger les cultures. Vous êtes pour le bilinguisme, pourquoi pas le trilinguisme ? Oui, le quadri, le multilinguisme. Je sais pas. Oui. Par exemple, les Parisiens, eux, ils pourraient adopter des trucs de fribourgeois. Des trucs super, comme la ponctualité, l'organisation, faire un carnaval des bols.
Ah ouais,
manger
pas
plus
mal.
De chocolat. Et puis, les Parisiens, ils pourraient aussi marcher moins vite. Et puis, les fribourgeois, eux, à l'inverse, ils devraient prendre aussi exemple de temps en temps sur des trucs que nous, on fait à Paris.
Oui, comme.
Je sais pas. Par exemple, être un petit peu moins à cheval sur le règlement. Vous voyez, lâcher un petit peu de lest dans l'organisation.
Oui, mais vous dites que d'un côté on doit, puis après on doit pas.
Bah oui, non, mais il faut trouver un équilibre. Puis surtout, il faudrait qu'ils marchent plus vite, les fribourgeois.
Ça m'agace.
C'est ça qui l'énerve.
Sur les tapis roulants.
Alors, c'est soit plus vite, soit moins vite. Non, on va trouver un équilibre. Tenez, je vais me lever, quoi. Vous êtes un peu lent quand même, non? Un peu, ouais. Mais bon,
on aime bien.
C'est pas grave.
On aime bien.
C'est parfois même un gage de qualité.
Oui.
Et la qualité suisse, elle est réputée dans le monde entier.
Oui.
Ah.
Que ce soit, attendez, je vais faire mon petit tour, ma petite liste. Hein. Le monde entier, qu'est-ce qu'on entend par le monde entier, Tani ? On entend du Japon à Marrakech, Marrakech à New York, de New York aux Maldives et des Maldives en Inde. Alors voilà, petit message personnel hein, à l'intention de toutes les agences de voyage, tour opérateurs, tout ce que vous voulez, qui voudraient me sponsoriser pour un mini tour du monde.
On est un peu jaloux parce qu'on a des collègues qui partent aux Maldives.
C'est pas grave.
Ouais, faut bien le dire.
Ben, moi, j'aime voyager, hein. C'est comme ça. Quand t'es originaire de la banlieue en général, tu aimes voyager. Je sais pas pourquoi, mais tu adores voyager quand t'es originaire de la banlieue. Mais souvent, quand tu viens de la banlieue, t'as pas forcément les thunes pour voyager. Alors, tu voyages sur place.
C'est bien?
C'est pas mal aussi. Alors, il y a quelques astuces comme ça. Il y en a qui boivent dans la cage d'escalier. Il y en a qui se droguent dans la cave. Il y en a qui empruntent des voitures de police. Et il y en a qui rêvent. Alors, moi, je vous laisse deviner ce que je faisais quand j'y étais.
La dernière.
Exactement. Bravo,
ça m'étonne pas.
Bon, vous savez, moi je dis que c'est comme ça qu'on s'occupe dans les banlieues parisiennes et Paris de Cité et tout ça, mais c'est dans le monde entier que c'est la même chose. Faut pas croire qu'on est les pires caïras du monde. Il y en a qui sont pires que nous et quand on parle de désespoir, de violence, bah il y a de toute façon pires que nous. Ça devrait nous réjouir quelque part. On aime bien voir plus malheureux que soi. Hein.
C'est vrai.
Regardez autour de vous surtout. Bah ouais, c'est vous le centre du monde. C'est vous le centre de votre monde normalement. Et ben moi, autour de mon monde à moi, il y a une fille qui s'appelle Flo et qui mérite toute votre attention, monsieur, dame. Elle chante avec ses tripes de banlieusarde du sud de la France, celle-ci. Et elle chante le monde de ceux qui mériteraient un petit sponsor dans leur vie de cauchemar. Et pas forcément le sponsor cité dans la chanson que voici. Voici Flo, mesdames et messieurs. Coca et bon week-end dans votre monde.
Nicolas ne boit pas de coca. Il défile. Et il lit la Pravda. Non, Nicolas trouve le monde moche. Il construit.
Radio.fr. Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Allez, c'est l'heure de notre arrêt télé sur M6 dans le 1945 où on apprend qu'une maison en bois, ça date pas de 9000 ans au maximum, mais de bien plus. Oui, parce que c'est la dernière qu'on avait trouvée, elle datait au maximum de 9000 ans.
Découverte qui interroge et qui bouleverse l'histoire de l'humanité. Des archéologues ont mis au jour une structure en bois vieille de près de 500 000 ans. En Zambie, c'est tout simplement la plus ancienne jamais découverte. C'est une construction complexe qui suppose des capacités techniques avancées chez les premiers hommes, et ce, bien avant l'apparition de l'Homo sapiens. La plus ancienne structure en bois connue à ce jour remontait jusqu'ici à seulement 9000 ans.
Radio FR. Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Aujourd'hui,
c'est une autre histoire.
Et tous les mardis, on retrouve quelqu'un qui a un talent comme nul autre pour nous raconter chaque semaine une autre histoire. Bonjour Alain-Jacques Tornard.
Bonjour Mike, bonjour à toutes.
C'est très important aujourd'hui.
Bonjour à tous.
Journée internationale des droits des femmes. Alors déjà, vous êtes quelqu'un de très 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 galant, Alain-Jacques Tornard. Vous allez l'être aujourd'hui plus que jamais. On va évoquer l'évolution dans quelques instants des droits des femmes, particulièrement en Suisse, hein, où ça a commencé, comme d'habitude, un peu plus tard qu'ailleurs. Mais avant cela, je salue le grand voyageur, celui qui rentre tout juste d'une magnifique croisière qu'il a emmené dans le golfe Persique et qui lui a permis de visiter, quand même, chanceux que vous êtes, l'exposition universelle de Dubaï. Racontez-nous ça.
Oui, alors c'est une croisière que j'ai faite avec ma fille Camille, pour un peu lui changer les idées, là, après tout, pour notre jeunesse, après tout ce qui s'est passé. Et c'est une croisière extraordinaire, ce qui nous a amené à Abu Dhabi, où il y a le Louvre, vous savez qu'il y a le Louvre.
Il y a un Louvre là-bas, c'est vrai.
Où on peut voir le chef abyssin de Marcello, c'est-à-dire la fribourgeoise Adèle Daffry, et aussi d'ailleurs un tingli. Donc pour vous dire, c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'on voit qu'ils ont construit tout ça à l'extérieur des villes. Hein, ça symbolisait un peu l'humanité qui se retrouve et tout, mais on voit bien que les grandes mosquées sont construites à l'extérieur, c'est des vitrines pour touristes en fait, en grande partie. Alors bien sûr, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est l'exposition universelle. Pourquoi ? Parce que dans le contexte actuel, universel, ça pourrait presque être un gros mot, quoi. Et là, on retrouve de tous les pays du monde.
Qu'est-ce qu'on peut voir, alors, clairement,
alors,
là-bas ?
Il y a plusieurs thématiques qui se développent. Par exemple, le marché, en une après-midi, 17 kilomètres, quand même, à travers...
Oh là là là.
Oui, et donc, il y a des stands. Alors, c'est amusant, parce que c'est des stands qui reflètent tellement bien les pays. Par exemple, la France, c'est un immense... Mais en fait, c'est un espace quasiment vide, des terrasses tout en haut, du vide au milieu et en bas. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit que le monde anglo-saxon est triomphant, parce que ça se passe à Dubaï, mais tout est en anglais, y compris le stand russe. Voilà. Donc
le stand russe, il est là, il est maintenu alors.
Alors bien entendu.
Malgré ce qui arrive, non, parce qu'il y a des boycotts en ce moment.
Oui, mais
partout,
quand on dit communauté internationale, il faut quand même se rendre compte que c'est des pays, ces pays-là qui trafiquent avec tous les autres pays du monde. Donc, le stand russe était d'ailleurs extrêmement visité. Il est basé sur le thème d'un cerveau. Alors, c'était assez pathétique, parce qu'il voulait refléter un pays paisible, vous voyez, un pays raisonnable. Dans le contexte actuel, c'est quand même un peu ironique.
Hein.
Moi, je me suis rendu d'ailleurs sur le stand de l'Ukraine, alors qu'il m'a beaucoup touché, forcément. Je ne vous cacherai pas que j'ai même eu les larmes aux yeux sur place.
Ouais, parce que qu'est-ce qui vous a spécialement ému? Alors,
parce qu'en fait, ils avaient basé sur les blés. Alors on voit bien que c'était ça, là. Pourquoi on tient tellement à ce pays pour les Russes aussi, c'est parce que c'est un des plus gros producteurs mondiaux de céréales. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aura sans doute des problèmes dans l'année qui vient, parce que les céréales ukrainiennes, on ne sait pas comment elles vont pouvoir être exportées depuis Odessa. Et mais le plus émouvant, c'est que les gens mettaient des post-it pour soutenir l'Ukraine.
D'accord.
Et puis moi, j'en ai mis un qui disait que un pays qui sait si bien se défendre mérite d'exister, tout simplement.
Bien, bien, bien,
bien rédigé. Ensuite, je suis allé aussi sur le stand de la Moldavie, parce que le prochain sur la liste, quelque part, c'est la Moldavie. Alors,
elle risque d'être...
Oui, c'est le prochain. Visiblement, ça sera très risqué. Je l'ai souvent dit dans notre émission, il y a une minorité russe tout le long de la frontière moldave qui s'appelle la Transnistrie, et c'est extrêmement dangereux. C'est le pays le plus pauvre d'Europe. Mais il avait réussi quand même à faire un joli stand où ils montrent leur folklore. J'ai discuté avec les gens, ils ont été tellement gentils. À la fin, ils m'ont donné un petit sac avec leur t-shirt moldave.
Oh, génial.
Leur casquette.
Vous le mettrez cet été, ce t-shirt moldave.
Oui. Et ça m'a beaucoup touché, cette humanité qui risque très très gros. Mais si les gens ont l'occasion d'y aller, parce que c'est jusqu'à la fin du mois de mars.
Ah, j'allais vous demander jusqu'à quand c'était.
Si vous avez l'occasion d'aller à l'exposition universelle de Dubaï, il faut y aller. Dubaï est un lieu extraordinaire. Si on est écologiste, il faut s'abstenir, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie dépensée.
C'est un autre débat.
C'est un autre débat. Mais l'exposition universelle vaut, comme on dit, le détour.
Alain-Jacques Tornard avec nous dans C'est une autre histoire, comme tous les mardis sur Radio Fribourg. Une journée pas comme les autres. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Comment ces droits ont-ils évolué dans notre bonne vieille petite Suisse, où ces dames ont quand même obtenu très 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 tard le droit de vote sur le plan fédéral? Eh bien, c'est dans quelques instants qu'on en parle sur Radio Fribourg, avec Radio Fribourg.
C'est une autre histoire.
8 mars 1917, les femmes new-yorkaises manifestaient pour obtenir l'égalité des droits avec les hommes. Il faudra toutefois attendre, je le disais tout à l'heure, 1977, pour que les Nations Unies fassent de ce 8 mars la journée internationale des droits des femmes. Qui de mieux placé que notre galant historien Alain-Jacques Tornard pour rendre grâce à l'auditoire féminin de Radio Fribourg, plus généralement à toutes ces femmes suisses qui ont dû peut-être attendre plus longtemps que leurs voisines pour obtenir les droits qui sont les leurs aujourd'hui et encore.
Oui, parce que ce combat est d'abord le combat pour le droit de vote. D'ailleurs, c'est étrange, vous invoquez le congrès américain, et alors qu'en fait, il y a plusieurs dates qui se télescopent. Parce que le 8 mars est devenu la journée internationale des femmes. En fait, c'était une décision d'abord du congrès des femmes socialistes à Copenhague en 1910. Sur l'initiative de femmes, d'ailleurs certaines allemandes, certaines russes, Clara Zetkin, qui était une passionnariat, future communiste d'ailleurs, et aussi la militante russe Alexandra Kollontai, et ces congressistes avaient décidé de consacrer cette journée à, je cite, la propagande en faveur du vote des femmes. Donc c'est assez, vous voyez, les Américains là, tout à coup, on fait la référence américaine alors qu'il y a autre chose. Et d'ailleurs, on dit aussi que c'est lors de la Révolution russe, parce qu'il y avait eu une manifestation, c'est cette manifestation en faveur des femmes qui avait entraîné, par phénomène de capillarité, la Révolution russe.
D'ailleurs, 1917, c'est l'année symbole.
Alors, c'est vrai que nos voisins français ont attendu 1945, parce qu'on se méfiait beaucoup des femmes, parce que à gauche, on se méfiait beaucoup des femmes parce qu'on pensait qu'elles étaient plus catholiques que les hommes, et que donc elles voteraient plutôt à droite, conservateurs. Et puis, bien sûr, je n'ose même pas évoquer le cas suisse, mais si, on va l'évoquer.
Allez-y, soyons fous.
Les sujets qui fâchent, nous adorons cela. Et la prise en compte de la dimension, on dira, sexuée de l'histoire date dans Suisse des années 1970-1980, donc c'est quand même très tardif. Dans les années 70, l'histoire des femmes a connu, comme on dit en histoire, plusieurs inflexions. C'est joli les termes comme ça, pour montrer qu'on est en perpétuel bouleversement. En fait, la réflexion d'abord porte sur l'existence d'une histoire propre aux femmes, puis celle d'une histoire possible des femmes. Elle s'est ensuite infléchie vers celle de l'étude du genre. Alors ça vient encore des pays anglo-saxons, gender, comment on dit en anglais, gender.
Gender,
à savoir celle de l'organisation sociale, de la relation entre les sexes. Mais c'est ces formules un peu alambiquées. En fait, la première rencontre scientifique en Suisse sur l'histoire des femmes a lieu à Berne en 1983.
C'est terriblement tardif.
Ensuite, en 1996, la Société Générale Suisse d'Histoire, auquel j'ai appartenu, a pour la première fois consacré sa journée annuelle à un thème d'histoire des femmes et du genre, les femmes et l'État. Pour l'anecdote, en 1982, on avait fondé aussi la Fondation Gostelli, dont les archives à Berne apportent une contribution à l'histoire du mouvement des femmes. Et puis, bien entendu, on pourrait évoquer la fameuse grève des femmes femmes le 14 juin 1991, où il y a eu des centaines de milliers de femmes.
Ça, c'est rentré dans l'histoire. On a célébré les 30 ans l'année dernière, d'ailleurs.
Remarquez que ça démarre sur le thème d'une grève. L'école médiatique de la grève fut importante, mais avec certaines ambiguïtés. On a plutôt insisté sur le rôle que les hommes ont joué lors de cette grève. Leur ralliement, par exemple. Et on accorda beaucoup de place donc à l'aspect aussi festif de tout ça. Alors j'aimerais signaler une exposition qui est très importante.
Au château de Morges en ce moment.
Vous savez, les liens fraternels presque que j'entretiens avec le château de Morges. Et ils font depuis le mois de septembre dernier le sexe faible, point d'interrogation, bien sûr. Femmes et pouvoir en Suisse et en Europe du 16e au 20e siècle. On y retrouve d'ailleurs Madame de Staël.
Dont on a abondamment parlé la semaine dernière avec Philippine de Gréa.
Voilà, exactement. Et donc, l'exposition a lieu jusqu'au 1er mai de cette année. Donc, je recommande la visite de cette exposition parce qu'elle est vraiment passionnante et elle montre que le rôle qu'on jouait, pas qu'on pu jouer, mais qu'on jouait effectivement, souvent dans l'ombre, mais maintenant de manière effective, les femmes dans l'histoire. L'histoire est faite aussi par les femmes.
Et si vous allez, mesdames, visiter le château de Morges, allez-y de la part d'Alain Jacques Tornard, vous serez bien accueillis parce que vous êtes connu là-bas, vous avez souvent donné des conférences.
Et puis j'ai refait plusieurs salles avec Pascal Pouli et avec la nouvelle conservatrice aussi. C'est un monde extraordinaire, Morges. Je me plais beaucoup. C'est en plus un château au bord du lac Léman, extraordinaire, château savoyard. Vraiment, il ne faut pas hésiter à y aller.
C'est une autre histoire continue après l'info de 8h30. En compagnie d'Alain Jacques Tornard, nous allons évoquer le carnaval des animaux, la première de Camille Saint-Saëns. C'est cette semaine que l'on célèbre cet événement. Et puis, notre gros dossier du jour, les relations souvent très compliquées au fil des années, au fil des siècles, entre les États-Unis et la Russie, ou devrais-je dire plutôt l'URSS, ou les deux. On en parle tout à l'heure sur 36.
C'est une autre histoire.
La Russie est en train de faire la guerre en Ukraine et la communauté internationale ne sait pas sur quel pied danser. Les États-Unis, par exemple, multiplient les menaces face à leur ennemi toujours, sans pour autant oser envoyer leur force de frappe. Je sais pas, mais quand on revoit les images du fou rire de Bill Clinton et de Boris Eltsine en 1995, on se souvient qu'à l'époque, on se disait que les deux rivaux avaient fait la paix pour 1000 ans. Quel optimisme, quelle naïveté. Quelle a été la position américaine face à la Russie au fil des ans, Alain Jacques Tornard? Ça me paraît plus que jamais d'actualité parce que parmi les événements que nous commémorons ces jours, on se souvient que le 5 mars 1946, par exemple, c'était officiellement le début de la guerre froide.
Oui, on peut se dire d'ailleurs, pourvu que ça reste une guerre froide.
Ça chauffe ces temps.
C'était à Fulton, dans le Missouri. Churchill, qui n'est plus au pouvoir, qui a une vision prémonitoire. Vous parlez de ces gens qui nous gouvernaient, qui étaient soit des obsédés sexuels comme Clinton, soit des alcooliques.
Propos n'appartiennent qu'à vous, mon bon Alain Jacques.
Mais on voit bien que des fois, les bons vivants, ils n'ont pas envie de mourir. Ces gens-là, finalement, ils sont moins dangereux que les gens très...
Ces gens froids.
Et comme des couteaux.
Calculateurs.
Exactement. Alors là, il s'était exclamé, c'est lui qui avait découvert, qui avait créé le terme de guerre froide.
Churchill.
Le rideau de fer. Un rideau de fer s'est abattu sur le continent et puis personne ne l'avait cru sur le moment. D'ailleurs, on lui avait rionné. Puis juste après, il y avait eu le coup de Prague en 1948. Le traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, suivi par la création du pacte de Varsovie en 1955. Vous voyez là, on a quand même beaucoup de choses qui montrent que tout a été fait contre l'Amérique d'un côté, contre la Russie de l'autre. Il y a eu la guerre de Corée, la répression de Budapest, le blocus de Berlin, la crise des fusées, l'intervention à Prague à nouveau. Parce qu'on oublie toujours que les Russes sont souvent intervenus. Et chaque fois, les Américains ont laissé faire quelque part aussi, tout en encourageant, c'est ça qui est un peu l'ambiguïté, c'est qu'ils ont toujours encouragé des pays à résister en leur faisant miroiter une possible intégration dans l'Europe, alors que c'est pas eux quand même qui sont censés décider.
C'est des pauvres peuples qui se sont retrouvés pris en étau dans cette grande guerre.
J'allais dire pratiquement en otage les différents camps, parce qu'à l'heure actuelle, bien entendu, les méchants, c'est visiblement les Russes, et c'est naturellement les Russes, c'est évident. évidemment. Mais il faut quand même voir avec un peu de recul que l'histoire n'a pas fonctionné de manière aussi unilatérale. Il y a eu beaucoup de choses qui ont préparé cela dans le court terme. Premièrement, l'obsession américaine, c'est que tout le monde pense comme eux. C'est-à-dire ils ont une vision unilatérale du monde.
Ils ont toujours... Surtout très manichéenne.
Fondée aussi sur la religion, d'ailleurs. Ils ont besoin d'ennemis. Voilà. D'ennemis pour exister.
Les bons d'un côté, les méchants de l'autre.
Hein. Voilà, exactement. Ils ont toujours eu besoin de ça. Et d'ailleurs, ils se sont évertués au fil des années, nous l'avons d'ailleurs souvent développé, cela, à combattre toute vision alternative. Les non-alignés, par exemple, ça a été leur obsession de détruire tous les États non-alignés, parce que ça voulait dire qu'il y avait une possibilité de troisième voie qui leur était insupportable. Il fallait, quand on dit, quand les communistes disent « choisis ton camp, camarade », c'est aussi vrai pour les Américains. Et en plus, le problème des Américains, c'est que ils ne connaissent pas bien le monde qui les entoure, mais ils veulent être quand même
On a toujours cette image de l'Américain moyen qui confond la Suisse avec la Suède. C'est pas un cliché, c'est vraiment comme ça.
Exactement. Alors nous, on les voit comme les gendarmes du monde venant au secours de la veuve et de l'orphelin. Ils sont d'abord les gardiens, j'allais dire, de la galaxie, pour reprendre les formules de la galaxie.
On est dans les films de super-héros. Ouais.
Oui, mais c'est un peu ça la vision que l'on a aussi des États-Unis, mais de la galaxie capitaliste, les maîtres du monde libéral. Il faudrait chaque fois rajouter un petit mot. Et tout le monde parle, d'ailleurs, l'anglo-américain dans le monde. Hein. C'est assez étonnant, c'est quasiment une schizophrénie, quoi, de voir que même les Chinois utilisent l'anglais maintenant pour se faire comprendre dans le monde.
Vous étiez à Abu Dhabi tout à l'heure, par exemple, l'exposition universelle.
Ce qui veut dire aussi que toute vision alternative du monde leur est insupportable. Les Russes, comme les Chinois d'ailleurs, ont développé des alternatives aux GAFAM. Hein, nos fameux, ils ont d'autres manières de communiquer qui leur est propre. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inouï. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les Russes, les Américains, ont raté de magnifiques occasions de se rapprocher des Russes. Ils étaient tellement obsédés par les Russes. Les Russes étaient tellement obsédés par l'idée d'encerclement, à tort ou à raison. Et les Américains, l'idée de les encercler, les Russes. Donc, tout était programmé de longue date pour un affrontement tôt ou tard entre les Américains et les Russes. Alors les Américains, on dit que c'est pas tout à fait vrai qu'ils avaient promis de ne pas faire progresser l'OTAN à Gorbatchev, ça c'est contesté. Mais il n'empêche que on a jamais tendu la main aux Russes. Et les Américains, les premiers, il y avait l'ambassadeur Orlov, qui a longtemps été l'ambassadeur très modéré russe à Paris, qui disait que dans la fin du 20e siècle, les ambassadeurs américains se permettaient d'envoyer des ordres aux ambassadeurs russes, tellement la Russie était affaiblie. En fait, ils ont beau jeu, les Russes, de dénoncer un monde unipolaire, parce que, dominé par les Américains, parce que les Américains ont sans arrêt, comme je le disais, sur le terrain concrètement, encouragé par exemple les Géorgiens à la résistance en 2008, et on a vu ce qui s'en est suivi, l'occupation de deux territoires géorgiens, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Ils ont encouragé d'autres contrées à être très fermes envers la Russie, à commencer par la pauvre Ukraine, à qui on a fait miroiter une possible intégration à l'Europe, alors qu'elle est actuellement, encore plus maintenant qu'avant, impossible techniquement.
C'est ça
millions.
Qui a véritablement mis le feu aux poudres.
Oui, parce que la solution, maintenant, c'est inaudible ce que je dis, je le sais bien, mais l'idée de faire une conférence des frontières, quand c'était possible, il y a 25 ans, et de rectifier les frontières issues de la guerre entre l'Allemagne et la Russie, nous-mêmes nous avions entamé cela avec la reconnaissance du Kosovo. Je l'avais dit ici même à l'antenne.
Vous en avez parlé,
et donc, il fallait faire une conférence des frontières qui aurait permis, par exemple, aux Russes de céder une partie des îles Kouril au Japon, de rendre symboliquement une partie de la Carélie à la Finlande, de donner un statut international à Kaliningrad, l'ancienne Königsberg, de rectifier, par contre, des frontières en donnant des territoires visiblement russophones, comme le Donbass et la Crimée, à la Russie, et comme ça on faisait des compensations territoriales qui auraient permis de tendre la main. Nous n'avons, les Américains se sont toujours refusés de tendre la main aux Russes.
Je racontais dans mon préambule, hein, je l'ai encore revu, c'est drôle, c'est émouvant, le fou rire, Bill Clinton, Boris Eltsine, en 1995, on a l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Est-ce que le verre était déjà dans le fruit, ou est-ce que ça serait passé autrement, peut-être avec d'autres dirigeant au fil des années, Alain-Jacques Tourneur.
Alors, le Poutine est une création, elle est notre œuvre. Parce qu'on a, vous parlez de 1995, mais encore une fois, c'est une belle rencontre. Mais sur quoi a-t-elle abouti concrètement? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est le moment de l'histoire de bascule de l'histoire, est-ce qu'à ce moment-là, on a proposé
rappelons que le rideau de fer était tombé quelques années auparavant.
Exactement, l'Union soviétique là s'est effondrée en 91, et pendant ces années-là, on s'est vertué à penser qu'on allait démanteler l'Union soviétique telle qu'elle, créer de nouveaux pays, et puis on n'en parlait plus. Mais en même temps, on a joué une politique des droits de l'homme. On a refusé, par exemple, aux Pays-Bas d'expulser les Russes présents sur leur territoire en très grand nombre, qui étaient là aussi pour coloniser autrefois ce territoire-là. Et ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a des minorités russes, russophones, par exemple en Lettonie, extrêmement importantes, sur lesquelles les Russes pourront s'appuyer pour revendiquer de nouvelles choses. Donc les États-Unis, là, ont joué un jeu extrêmement dangereux. Encore là, dernièrement, en encourageant les Ukrainiens à ne faire aucune concession, je rappelle quand même que le russe, qui est quand même parlé par une partie de la population ukrainienne, n'avait plus le droit d'être une langue officielle depuis 2015, si je ne m'abuse, en Ukraine. Et ce qui veut dire aussi que ça a nourri des ressentiments. On a beau me dire que les russophones d'Odessa sont en grande partie hostiles à la Russie, il n'empêche que ça reste quand même des russophones qui réclament des droits. Donc c'est peut-être pas trop tard, mais je pense que c'est trop tard. Mais les Américains, là, maintenant, ont beau jeu, parce que je pourrais dire aussi qu'ils avaient raison, hein, pour une fois qu'ils avaient raison en disant qu'il y avait une menace réelle, mais il ne faut pas oublier que cette menace, ils l'ont eux-mêmes soigneusement alimentée et qu'ils continuent à mettre de l'huile sur le feu, alors que maintenant, on devrait proposer, en effet, une conférence internationale pour revoir ses frontières. C'est la conférence de la dernière chance, parce que sinon, nous courons tout droit à la catastrophe.
Un peu de musique douce, hein, dans les prochaines minutes, ça va nous faire beaucoup de bien. Merci Alain-Jacques Tornard. On va évoquer un compositeur que vous aimez beaucoup, Camille Saint-Saëns, c'est une œuvre à la dimension tout simplement universelle. C'est le Carnaval des animaux, une superbe suite pour orchestre qui a son anniversaire cette semaine. On en parle du Fribourg.
C'est une autre histoire.
Vous le connaissez bien, notre petit indicatif, hein, il nous accompagne tous les mercredis dans cette émission avec notre historien Alain-Jacques Tornard, mais on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait changer un peu, on allait vous mettre dans les oreilles ce qu'on appelle vraiment de la grande musique. Écoutez plutôt. C'est quelque chose d'une beauté absolue, le signe tiré du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Cette célèbre suite pour orchestre a été créée le 9 mars 1886. C'est donc son anniversaire cette semaine. Si je vous ai invité à en parler, Alain-Jacques Tornard, c'est pour votre bien, c'est pour vous faire plaisir, parce que je sais que Saint-Saëns est tout simplement votre compositeur préféré.
Oui, en plus, c'est un beau cadeau d'anniversaire que vous faites, puisque le 9 mars, c'est aussi mon anniversaire.
Ouais, demain.
Je ne savais pas que c'était le Carnaval des animaux avait été créé à ce moment-là. Saint-Saëns, c'est pas un immense compositeur, mais c'est un compositeur terriblement humain, qui fait jouer ses amis. Vous avez, dans toutes ses œuvres, il veut faire plaisir à ses potes. Il y a son Septuor, qui est magnifique. Je recommande aux gens d'écouter le Septuor de Saint-Saëns, où il a plusieurs instruments de ses potes, mais qui ne savent pas forcément jouer aussi bien les uns que les autres. Il compose l'œuvre en fonction de l'intérêt qu'il peut avoir.
Ça montre le côté très humain. Hein.
Voilà.
Parce qu'il y a des compositeurs qui ont composé des œuvres que presque personne n'arrive à jouer, comme Jean-Sébastien Bach, par exemple.
Il y a là, par exemple, la troisième symphonie de Saint-Saëns avec orgue, vous qui aimez bien les cathédrales, l'orgue de Saint-Saëns. Alors, Saint-Saëns est à l'orgue parce que c'est un organiste, mais c'est aussi un pianiste. Et à un moment donné, vers la fin de l'œuvre, il rejoint symboliquement au piano Franz Liszt et il joue à quatre mains les deux. C'est parce que Liszt l'avait aidé. Donc, voilà comment fonctionne Saint-Saëns. Compositeur hyper sérieux, il a inauguré sa propre statue à Dieppe, mais en fait, il avait énormément d'humour. Et donc, à un moment donné, il est près de Vienne, en Autriche, et puis il se dit, tiens, je composerais bien un truc où je vais faire des parodies. Il se parodie même lui-même ses propres œuvres. Il parodie les gens qu'il aime, qu'il a entendu, Rameau, Offenbach, Berlioz, Mendelssohn. On entend dans cette œuvre, donc le Caravelle des animaux, au clair de la lune, ou bien Offenbach, vous savez, le French Cantat,
oui.
Et bien, ça devient très, très lent, lent pour montrer. C'est absolument inouï. Et puis, à un moment donné, il y a le tube des tubes que moi, j'adore en particulier, c'est l'aquarium.
L'aquarium, on le connaît bien si on regarde un spot publicitaire qui tourne actuellement beaucoup sur les chaînes françaises. Ça va vous parler, écoutez. Souvent, c'est des musiques, on les entend, on se dit c'est fabuleux, on ne sait pas forcément de qui c'est. Ben voilà, ça une fois de plus, c'est Camille Saint-Saëns, c'est le Carnaval des animaux.
Tous les amateurs de cinéma savent que c'est la musique qui introduit chaque film au Festival de Cannes.
Oui,
si vous regardez à la télévision le Festival de Cannes, eh bien vous entendez tout le temps cette musique et c'est tiré du Carnaval des animaux. Alors, Saint-Saëns, sur le moment, il n'a pas trop apprécié qu'on joue son œuvre. Pourquoi ? Parce que l'humour, c'est comme, on parlait du cinéma. Vous savez qu'au cinéma, c'est, à Cannes, on privilégie plutôt les films un peu, comment dirais-je. C'est
très intellectuel.
Voilà, exactement.
C'est la différence entre les festivals français et les festivals de cinéma américains. Hein.
Donc, les films, à caractère humoristique, qui, je vois souvent à plus de profondeur qu'on l'imagine et qui parfois font passer des messages beaucoup plus profonds qu'on ne le pense, eh bien, c'est un cinéma qui ne fonctionne pas. Et en même temps, la même chose pour la musique. Cette musique est tellement humoristique, elle est tellement des clins d'œil. Alors, même Francis Blanche, en son temps, avait mis des textes, introduit des textes.
Oui, il avait fait le narrateur.
Souvent, d'ailleurs, dans les disques, on le voit avec une œuvre de Prokofiev très connue, Pierre et le Loup.
Pierre et le Loup, ouais.
Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est une petite erreur, parce que c'est pas forcément une œuvre pour enfants. Donc, il voulait pas qu'on l'ajoute son vivant, sauf le Cygne, qui est le grand au violoncelle, qui était une des œuvres les plus connues de Saint-Saëns. Il faudra donc attendre sa mort, donc il y a un siècle. C'est amusant parce que vous parliez du 9 mars 1886, mais en fait c'était en 1922, à peu près au mois de février, donc il y a un siècle précisément, qu'enfin, après la mort de Saint-Saëns en 1921, il est mort en décembre à Alger, qu'on peut jouer, il avait dit qu'on pourrait jouer après sa mort, et donc c'est devenu une œuvre hyper célèbre.
C'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas d'autre mot.
Un chef-d'œuvre absolu qui fait de Saint-Saëns, moi, le compositeur que j'aime. Et d'ailleurs, mon rêve, que je ne réaliserai jamais, ce serait de diriger le final de la troisième symphonie de Saint-Saëns avec orgue. Mais j'adore tout dans Saint-Saëns, la quatrième, cinquième concerto. Et je rêve d'écrire un ouvrage, ça s'appellerait De Camille Saint-Saëns à Richard Strauss, un siècle de musique païenne.
C'est ambitieux, hein.
Mais je ne l'écrirai jamais parce que je ne suis pas un spécialiste de musique. Moi, je le sens dans mes fibres, Saint-Saëns. Il me ressemble tellement. Je lui ressemble tellement.
À défaut de pouvoir un jour diriger un concert avec la musique de Saint-Saëns, vous orchestrez tellement bien cette émission chaque semaine, Alain-Jacques Tornard, c'est une autre histoire. D'autres histoires, je sais pas, mardi prochain si vous êtes partant.
Alors, je me réjouis des...
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Et ce soir, le défi, c'est de savoir si vous, les auditeurs, vous êtes capables de comprendre que veut dire cette phrase-là.
Vous voulez que je la sorte maintenant ?
Maintenant. C'est qui ?
Ah, on en a deux en plus.
On en a deux dans la voiture.
On
s'est bien
mariés
d'ailleurs.
Ah voilà.
Ça commence bien.
Parce que vous avez déjà une réponse.
Tu m'en fais rire. Ça rime, ah, alors.
Vous aussi, vous avez presque une côte cassée tellement que vous avez rigolé en l'entendant ou quoi? Alors, cette phrase magnifique que j'aimerais réentendre, s'il vous plaît. Terrible. Annick et Sandro, d'après vous, ça veut dire?
Je vais regarder les poules.
Attends, on note?
Je vais regarder
les poules ou les oies ou quelque chose comme ça.
Les poules ou les oies.
Ou les oies.
C'est pas tout à fait ça. Et donc la réponse malheureusement est refusée. Un autre appel en direct de la galaxie.
Il y a peut-être une boule
dans la voiture.
Ah, qui est-ce?
Oh, facile, c'est Jean-Bernard.
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 Ouais,
facile en tant que bilingue.
Il est bilingue en plus. Oh non, les bilingues, ils ont pas le droit de jouer.
Non,
Annick et Sandro, ils disent aussi, vous pouvez pas jouer, hein, Jean-Bernard. Ça va pas aller.
Ah non,
hein.
Ça veut pas jouer, quoi. Que non, je vais garder les mots de zé.
Les mots de zé. Je fais.
Ça, c'est l'indice. Donc, Annick et Sandro, est-ce que vous avez une autre proposition?
Non.
Bon, voilà, merci beaucoup.
Samuel,
qu'est-ce que toi tu proposes? Ça veut dire quoi cette phrase magnifique? Samuel, proposition.
Je vais voir les poulets.
Les poulets.
Non, c'est pas les poulets de poids, là.
Je vais pas voir.
Qui sont très bons.
Et autrement, on a un quatrième appel en ligne déjà.
Alors, qui est-ce?
Alors, c'est aussi Sandro, mais moi, je suis dans mon bain.
Oh, d'accord. Les petites bubus. Et Sandro, mis à part ça, t'étais vraiment tout nu?
Comment?
Tu y es tout nu?
Bah, dans le bain, forcément, hein.
Mais Tania, hein, elle est toute chose depuis
qu'elle
apprend.
On a Annick et Sandro dans une voiture. Attends, on a Samuel qui était aussi dans une
donc,
voiture.
Sont il acceptés les gens qui nous écoutent sur les parkings et dans leur bain.
Jean-Bernard, toi, tu es où?
Oh, moi, je suis encore au boulot.
Hein?
Attention.
Ouais, quand même, c'est
quand
même extraordinaire.
Donc, alors. Sandro, ta proposition?
Alors, je suis allé voir les vaches.
Les vaches?
Les vaches?
Non, t'as pas les vaches.
Ah là 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 là.
Il y a Joël qui, lui, nous avait dit par SMS FRIL tour 939.
Je vais voir les génisses.
Ouais,
ouais, c'est pas ça non plus.
Non, hein. Non,
sur le Facebook, il y a Flo qui nous a proposé « Je vais voir les poulets », qui a été déjà refusé.
Faux.
Et Ludivine qui nous propose « Je vais aller voir les vaches ». Donc ça tourne toujours autour
non,
des mêmes
non,
idées.
Non,
hein.
Non, non,
ah,
non.
Qu'est-ce
non.
qu'on a là?
Je vais voir les poussins.
Hein?
Oh.
Ah non. C'est pas exactement, c'est pas précisément. Je peux pas accepter cette réponse avec précision.
Salaud.
Hey, Maître Capello, il est.
Là, il est vache.
Ah, j'ai un peu corsé la chose.
Ah, il a corsé. Hein.
Que veut dire caca?
Sandro, quoi? Tu fais ça dans ton bain, fais gaffe. Hein.
Écoute,
moi je trouve que t'es pas sympa, Rio, parce que si tu prends littéralement.
Ouais, mais ça a une signification bien au-delà du littéral, tu vois. Je veux dire, ça.
Les petits poussins.
Quoi?
Les petits poussins.
Ça, on se rapproche encore plus de la bonne réponse, mais malheureusement, c'est encore pas tout à fait ça, parce qu'il y a toute une philosophie derrière. Il y a toute une facette culturelle que vous oubliez. Il y a toute une partie de la signification de la phrase qui disparaît comme ça, chut, aux oubliettes.
Non, mais là il fait semblant de savoir parler, le suisse allemand.
C'est Spinaille, mais. En réalité, on n'a pas trop d'infos sur. Je vais voir les poussins.
Attends. On va décomposer la phrase.
Comment tu veux décomposer ça?
C'est indécomposable.
C'est un seul mot.
La phrase entière est une vaste décomposition.
Plus lentement.
Je peux pas la dire plus lentement. Quoi?
Quoi?
C'est une catastrophe.
Ouais, on a bien dit. Non, mais franchement, je trouve que t'es trop dur parce que Annick et Sandro, c'est juste, ils ont pris littéralement le truc, c'est ça. Mm-hmm. Ça veut exactement dire je vais voir les poussins.
Les petits poussins.
Non, ce serait
non, les poussins. Alors c'est bon, les poussins. Mais c'est plus le même.
Kaka,
on va avoir mal à la gorge. gorge pour finir.
C'est horrible.
Eh ben, écoutez, la bonne réponse que je vais vous donner, ça voulait dire, en fait, je vais aller voir l'exposition de poussins au musée d'histoire naturelle.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
La bonne nouvelle du jour.
Et bonne nouvelle, rendre vos communications téléphoniques plus sensuelles.
C'est
désormais possible grâce à un coussin en forme de silhouette. C'est extraordinaire.
Après le coussin péteur.
Voilà.
C'est
le
bien.
Le coussin en forme de rien, mais qui laisse envisager peut-être une silhouette. C'est une japonaiserie, évidemment. Donc, il s'agit d'un coussin en forme presque humaine, muni d'une pochette pour accueillir votre mobile. Un objet à étreindre, donc je te montre la photo parce que c'est vraiment ça. Et c'est une forme un peu bizarre que tu prends dans tes bras.
Oh,
comme ça.
C'est mignon, voilà. Ouais, ça, on dirait un espèce de barbe à papa.
Exactement. Tu mets ton téléphone dedans et puis donc tu parles de manière plus sensuelle parce que tu étreins cette chose, cette sorte de traversin rembourré couvert de tissu coloré qui a la taille d'un enfant d'un an environ. C'est baptisé Hugvi et donc cet objet est prévu pour y glisser son téléphone avant de le prendre dans ses bras et est censé rendre la communication plus sensuelle et plus relaxante. L'utilisateur serait donc plus détendu en serrant cet objet tout en discutant. C'est la combinaison de deux sens, l'ouïe et le toucher, qui créerait l'illusion de la proximité de l'interlocuteur et qui aurait cet effet apaisant. Hugvi, c'est son nom, dont des prototypes avaient été présentés il y a plusieurs années, sera donc proposé à partir de septembre au Japon pour la modique somme de 80 francs suisses, donc 10 000 yens. À éviter quand même peut-être si vous appelez votre boss. Je suis pas sûre non plus que ça arrive jusqu'à chez nous. Hein. Pour l'instant, au Japon éventuellement, mais chez nous,
écoute,
je trouve que c'est quand même un peu bizarre si tu te retrouves dans la rue.
Je testerai la chose lorsque j'appellerai Thierry Savary. On ne sait jamais si ça peut mener à une augmentation, mais j'ai peu d'espoir.
Tous les moyens sont bons.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Ils viennent d'un pays merveilleux, la Baltie. Voici les aventures de Janine et Bernard.
Salut Janine!
T'es quoi le Bernard?
Ciao!
Et l'autre gueule! À toi! J'étais à la boîte aux lettres! Lettres recommandées! Mais cool! Dis donc, c'est quoi? C'est bizarre!
Incroyable! C'est quoi la jeune chambre économique?
Dis donc, ça veut dire quoi ça?
C'est des sans courte, c'est jeune délinquant!
Écoute, de jeune, en tout cas, nous, moi je me sens pas forcément jeune, c'est pas pour nous!
Une chambre économique, c'est un magasin de meubles en boltier, là, ça va!
Ouais, ouais, un truc un peu en court cochon, là!
Économique! Profitez!
Économique, c'est gratis,
ben
c'est
oui.
Quelque chose d'intéressant.
C'est sûrement bien. Attends, regardez.
C'est marqué quoi?
Alors, vous êtes cordialement invité personnellement pour tester la Zampata. Qu'est-ce que ça fait?
Hey, tu sais, la Zampata, c'est cette course-là où il faut courir les escaliers, là, faut zamper les aigras.
Il faut monter les marches. Mais on a eu fait ça.
Mais oui.
Oui,
tu te rappelles à l'époque, là, quand il y avait encore la société
raide.
Gym, là, une fois. C'est la Satus, là. Tu te rappelles le temps avec Kiki.
Ah oui, on a eu fait avec Kiki, hein.
Ça, alors, je peux te dire, dis donc.
Oui. Alors, on se fait la Zampata ou quoi?
Écoute.
C'est quoi, samedi?
Écoute, moi, j'ai un problème.
Quoi?
J'ai prévu d'aller au loto avec les contemporaines.
Non, mais laisse-les une fois. Ça fait 5 fois dans le gueule, tu vois, au loto depuis ce mois.
Non, mais
arrêtez
écoute...
une fois. T'as déjà eu été assez souvent, hein.
Bon, écoute, puis c'est gratis, je viens.
Profite.
On paye pas un rond, ça vaut la peine, ou
alors,
bien?
Alors, moteur.
Alors, on a rendez-vous.
Alors, rendez-vous aux Augustins à 18h30 avec les organisateurs.
Et la Zampata, on y va.
Moteur.
Cueilleur.
Folgas. Ah, les Augustins, il n'y a plus la patoche, dis donc.
Mais non,
c'est quoi toutes ces bagnoles?
Et tu te souviens ou bien, Bernard, quand il y avait la patoche?
Et non, du coup, on est venu voir Gauthieran. Il y avait caca, il y avait Roblon. Hein.
Caca, Roblon, et dis donc, tu te rappelles, on chmousait à chaque fois qu'il y avait un but.
Et puis, en plus, c'est gratis, pas un rang.
Rien du tout.
Et non,
puis, on faisait la fondue sur les gradins, tu te souviens?
Et Radouard, non, 18h30, on a rendez-vous avec les organisateurs, hein?
Et ils sont où? Et je les vois là-bas.
Et non, Dieu! Adieu!
Adieu!
C'est vous l'organisateur là, qu'on a eu donné rendez-vous?
Ouais, venez jusque-là.
Hey, oui. Dis donc. Hey, salut.
Et ciao. Ciao.
Bonjour, bonjour.
J'ai un peu rupé. J'aurais pas dû. Oui, alors, ça se passe comment, cette affaire?
Alors, c'est pas compliqué. Déjà, on vous remercie d'être venu.
C'est gratis, hein?
Ouais, bien sûr.
Non, c'est important, ça. On n'a pas pris l'argent.
Non, pas de souci, pas de souci. Donc, vous avez pris les bonnes godasses?
Ouais, moi, je crois que j'ai les bonnes choses. Bon, là,
ben,
c'est
moi,
bon,
j'ai pris celle que tu m'as achetée, hein?
Ça doit aller.
Pas tant.
Eh, mais dis donc, il y a quand même une chaîne marche ou bien pour ce truc?
Mais non, quelques-unes. Bon. Moins que la cathédrale.
Moi, je suis déjà eu monté à la cathédrale, hein?
Mais oui. Puis dis donc, t'avais pas ton copain, là, qui avait fait l'année passée la Zampata, Bernard?
Ouais, il y avait eu Ouin de Marly.
Ah ouais, Ouin de Marly, dis donc.
Il a eu fait combien de temps, Ouin?
Oh, Ouin de Marly, il avait fait 1,33.
1,33 fastoche.
Moi, ça me fait pas peur.
Moi, je suis sûr que je t'en fais un 1,20.
Allez,
moteur.
C'est qui part en premier?
Eh ben, moi, je dis c'est moi.
Vas-y, Janine.
Je me sens bien, là, j'y vais.
Alors, vous partez pas comme une balle, hein?
Ok, j'y vais, moi.
Janine, non, tu fonces.
Vous êtes prête?
Si,
3,
si, tu quand même battes Ouin, hein?
Ton verreur.
T'es prête? Ciao, hein?
Partez.
Go.
Vas-y, Janine.
Bon, monsieur Bernard, à vous maintenant. 3.
Oh, non, je suis prêt.
2. 1. Partez.
J'y vais, Janine.
Allez, Bernard.
Ouais, j'arrive, Janine. Je te rattrape. Je te rattrape. Mais non, je suis déjà derrière. T'as vu cette performance? Mais quoi, le bien?
Il fait grand temps.
Hé, Janine, pousse pas, faut que je passe devant.
Hé, je suis arrivé au Zeringen. Hé, je suis arrivé en haut.
Bon, alors, donc, madame, 1,44.
J'ai fait 1,44, c'est pas mal.
1,55.
1,55. Hey, hey.
Ton Bernard, j'ai gagné.
1,55, c'est quand même pas plus quand même que Ouin, bien.
Eh, ma foi.
T'as pas battu Ouin.
T'as voulu m'acheter des merdes à feu, lui, mais non, 39 francs la paire de godasses, tu vois, où ça mène, hein.
Ouais, dis donc, un
c'est
peu facile.
C'est bien de ta faute, hein, Janine, hein.
Non, un peu facile, dis donc.
Ouin, il a une femme qui lui achète des belles godasses, hein.
Tu crois pas que c'est plutôt un peu tout ce que t'as rupé avant la course, ou bien?
Oui, bon, j'ai mangé quand même 7 viennerli, hein.
Ouais,
c'est ça qui me pèse, hein.
T'oublies de compter les 7 binches entre deux, dis donc, Bernard, et t'es col le rouf.
Il y avait même pas de moutarde, t'es cool.
Rouf. Moi, je suis trop fier. Alors...
Bon, pas de bagarre, hein.
Maintenant, monsieur l'organisateur, c'est quoi la suite du programme?
Il y a un autre poste, ou bien?
Tout à fait, alors c'est pas compliqué. Vous allez suivre les flèches jusqu'au prochain escalier et les gens vous dirigeront vers les prochains.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
C'est l'heure de parler de notre étude du jour. On va faire le comparatif. La musique, avec une bonne playlist, est-elle aussi efficace qu'un médicament? Elle peut influer sur notre humeur, mais elle peut être aussi utilisée pour traiter des symptômes plus importants. Alors, selon des chercheurs brésiliens, elle permettrait de réduire la pression artérielle et de traiter les symptômes de la dépression. La simple écoute de la musique permet de traiter efficacement les symptômes de la dépression, de l'anxiété, de l'insomnie ou encore de douleurs physiques. Ces deux études montrent qu'une écoute régulière permet de réduire la pression artérielle de personnes qui souffrent d'hypertension, une baisse qui permet de réduire le risque d'attaque de 13% carrément. Alors voilà, comme la musique reste un art, quand on se sent triste, écouter des chansons mélancoliques, ça peut nous aider à accepter nos émotions sans les combattre et donc à aller mieux. Mais pour que ça marche, il faut que les chansons reflètent notre humeur actuelle. Et il faut que la playlist termine sur une chanson qui reflète l'état d'esprit qu'on souhaite atteindre. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une playlist triste, il faut que ça termine de bonne humeur, si vous voulez rester de bonne humeur. Après une rupture, faudrait peut-être pas mettre que des chansons qui parlent que de cœur brisé, vous voyez, par exemple. Le but, c'est de passer du négatif au positif. Petite transition comme ça qui pourrait fonctionner. Alors écoutez, la playlist que je vous envoie maintenant, j'espère que pour vous, elle va vous remonter l'humeur et vous mettre de bonne pour toute la journée.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Enfin, Playboy ne fait plus recette. Le magazine affiche aujourd'hui une nouvelle perte comptable au troisième trimestre à cause notamment d'une baisse des ventes. La diffusion du célèbre magazine au lapin va donc être réduite trio.
Eh oui, faut dire que Hugh Hefner, il ramasse toutes les filles, hein, pour lui. Il les laisse même pas pour son magazine, en fait.
Parce qu'avant, il les prenait pour lui et ensuite dans le magazine.
Voilà, exactement. Mmh. Là, elles ont trop à faire avec lui.
Mais d'où sort cette légende?
Bah, vous avez jamais vu les Girls de Playboy? Mmh. Ça fait l'objet d'une télé-réalité, en fait. Vous êtes un vrai expert, dites-moi.
Non mais
racontez-nous alors.
Ça passe sur la chaîne E-Entertainment France. Là.
Et ça a ponctué toute votre adolescence.
Et comment? Et vous pouvez parler de ça à Tania, elle est fan de l'émission. C'est elle qui m'a appris à connaître ce truc.
Oui, c'est facile, c'est un peu facile.
Ah, les girls de Playboy, c'est pas moi qui suis fan au départ.
À la base, c'est moi, ouais. J'avoue tout.
Ouais, bah, quand on se
rend ne connaît pas les girls de Playboy.
Mais évidemment qu'on les connaît, mais pas sur les émissions de télé-réalité, dans le magazine, machin. Puis moi, je suis trop jeune, peut-être, non?
Non, rien à voir, c'est diffusé en ce moment, vous n'êtes pas trop jeune, vous aimeriez bien essayer de vous en sortir comme ça.
Il a juste pas la
trois
télé.
Belles blondes pour Hugh Hefner, je ne sais pas si vous vous rendez compte, trois plus bêtes les unes que les autres.
Ouais, mais Hugh Hefner, qui est donc le fondateur de Playboy, c'était en 1953, il doit être un peu vieux maintenant.
Ah bah c'est pour ça.
Il est. Il est toujours en pyjama d'ailleurs, avec les cheveux un peu plats derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, dans toutes les émissions, il a la coupe comme les bébés derrière, c'est rigolo.
Par contre, les filles, elles sont canons, hein. Elles ont quoi? Dans 18 et 20 ans?
Ouais, 18 et 22, ouais.
Ouais.
Toutes refaites, hein, bien sûr.
On dit qu'elles ont 18.
Ouais. Toutes refaites, oui. Ouais.
Bon, bah demain, je viens avec mon diadème à lapin, un peu comme Bridget Jones.
Exactement.
On fait comme ça.
Très bonne idée, merci.
À demain,
Radio FR,
la météo.
Avec les garages Chouvet SA, distributeur Renault à Marly et à la Tour de Trèves.
Alors demain on aura un temps variable mais sec. Ça veut dire qu'on devrait éviter les gouttes de pluie. Quelques éclaircies, des passages nuageux, surtout le matin. Il fera entre 5 et 10 degrés. Pour notre week-end, des éclaircies samedi matin, mais ça va bien se dégrader dans la journée. Dimanche et lundi, le temps reste très nuageux, couvert, frais, avec des averses. Ça ira mieux mardi.
Radio FR,
Radio Fribourg, en ville de Fribourg, sur 106.1. Après Jonathan et Jennifer.
Le club de Rio et Tania.
Et bravo, c'est la première fois depuis des semaines que c'est le club de Rio et Tania.
Bravo.
Quelle fête.
Ah, on change, hein.
Bonjour Rio.
Bonjour Tania.
Comment ça va?
On est les deux là, hein. C'était le club de Rio ou Tania depuis le mois de juillet.
C'est comme vous avez remarqué, ces derniers matins, c'était Jonathan ou Cécile.
C'est vrai.
Les duos sont à la peine ces temps-ci.
Pourquoi on dit pas Jonathan, comme le jingle qu'on vient d'entendre, Jonathan et Jennifer, c'est Jonathan ou Cécile, non?
Ça pourrait être pas mal, Jonathan.
Jonathan et Cécile, là, ça pourrait être
pas mal. Cécile, ouais, ça
pourrait
bien faire.
Mike, comment allez-vous?
Mais une vraie merveille.
Ouais.
Toujours un grand plaisir de passer quelques moments de délire avec vous, les amis.
Vous êtes le bienvenu.
Merci.
Mike est déjà venu deux, trois fois, paraît-il. Hein,
bah, bien sûr, fallait bien.
Ouais, oui. Il fallait bien remplaçant. Hein.
JD, alors fidèle au poste. Hein,
comme toujours.
Il n'a pas manqué une émission.
De radio ou de police?
Ça va s'appeler le club de J&D.
Oui, on va renommer l'émission, effectivement.
JD, on va faire comme à l'école.
Non, c'est vrai que moi, je n'ai pas eu de mauvaise excuse pour louper une émission cette année.
C'est vrai.
Ouais.
JD, on va faire comme à l'école. Je vais vous donner un petit papier.
Ah, j'ai une gommette.
Non, pas du tout. Vous allez mettre votre petit chewing-gum dedans.
C'est quoi ce bordel?
Non mais c'est honteux.
Attends,
on
c'est
ne va pas à l'école avec un chewing-gum et on ne fait pas de la radio avec un chewing-gum, Mike.
Moi je me rappelle à l'école, il y avait une prof, quand on avait des chewing-gums, elle le prenait, elle faisait cracher dans sa main puis elle nous collait dans les cheveux.
Il rate la poubelle en plus, ce naze.
Elle faisait ça aux filles surtout parce que.
Et c'est pas sympa. Après, faut vraiment couper la mèche. Hein.
Ah, il faut raser. Hein. Après, c'est la boule à zéro.
Vous savez que moi j'avais des cheveux de princesse jusqu'aux fesses, magnifique.
Mais vous avez toujours des cheveux de princesse, même si c'est plus jusqu'aux fesses.
Ça c'est un peu vrai. Eh bien un jour.
Oui, des cheveux d'or.
En fait, les cheveux sont toujours de la même longueur, sauf que Tania a grandi.
Eh bien, un jour, une personne que je ne nommerai pas, qui est dans ma famille, une nuit, devrais-je dire, cette fille m'a collé un chewing-gum à la racine des cheveux, pile au-dessus de la tête.
Ouf. Oh là là, ça devait faire le trou, là, alors.
Eh bien, j'étais obligée de couper, puisque pendant la nuit, ça avait durci.
Oui, ça je pense bien, ouais.
Voyez? Donc j'avais dû couper, puis alors j'étais une très jolie princesse avec des longs cheveux, mais juste avec une huppe, comme ça sur la tête, toute droite.
La princesse en fait, huppée.
Une princesse qui a fait un tour au monastère, qui est repartie avec une tonsure, en fait.
C'est un peu ça, quoi. Quelle horreur.
Vous savez que les SMS sont les bienvenus, hein.
Heureusement.
Je vois que ça commence déjà, c'est pour ça que j'en parle. Ferry 939, on nous dit, ça fait plaisir de pouvoir enfin vous écouter en direct, après 4 mois d'armée. Donc c'était pas lié au fait qu'on soit pas là, c'était l'armée, en fait, les pauvres.
Nous aussi, on était à l'armée.
Malades, ils ont tous la grippe porcine.
C'est vrai. Nous aussi, on était alarmés, mais de manière.
Oui, c'était alarmant. C'est vrai que c'est alarmant, c'est ce qu'on fait depuis longtemps, effectivement.
Vous pourriez passer un petit Nirvana. Mais oui, David, on va te faire ça. Hein?
D'accord, bon,
on lui fait ça, David.
On voulait mettre du Yves Larocque pour faire un peu lèche-cul, mais on mettra du Nirvana.
Bah, c'est vrai qu'il veut faire un peu lèche-cul parce que ce soir, notre grand invité, c'est Yves Larocque. Tout le monde connaît Yves Larocque.
Le silence.
Bah oui.
Ah bah oui.
Il arrive au bon moment justement.
On va se faire engueuler si on... Non, on le connaît bien sûr.
D'accord. Donc si vous avez des questions à lui poser, vous n'hésitez pas déjà à nous envoyer cette question par SMS FRI le tout au 939. Et on aura aussi besoin de numéros de téléphone de DJ suisse allemand.
Ou alors ça faut déjà trouver. Donc
vous
des DJ qui parlent suisse allemand.
Ouais.
Ça va être important, oui. Donc, ouais. Des numéros de téléphone à dénoncer par SMS FRI au 939. Donc, on n'écoutera pas du tout
pas
le Larocque.
Pas de numéro de Stéphane D, c'est
parce qu'on a décidé de ne pas faire les LHQ, voilà. On fait plaisir d'abord à nos auditeurs. Et puisque David a demandé Nirvana, bah, la Nirvana, c'est comme ça.
On est comme ça.